Saluons jeunes gens. Après un bon repas, nous sommes tous enthousiastes. Chant que nous avons chanté ce matin et nous aimerions le chanter à nouveau. Cela dit, apporte tous tes fardeaux, car tu ne pourras pas rentrer avec tes fardeaux. Et si tu as tes fardeaux, alors tu ne pourras pas rentrer.
Thank you.
Et quand nous pensons à ce chant, cela nous rappelle le thème de la conférence et cela peut aussi nous aider. Car en vérité, nous ne pouvons pas rentrer par la porte étroite avec un fardeau. Le chant continue en disant « Il y en a beaucoup qui un jour vont retourner en arrière car il n'est pas possible de rentrer par la porte avec un fardeau. » Fermons nos yeux et prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, et nous te louons pour la vie que tu nous as donnée. Et nous te prions que nous puissions glorifier ton nom à travers nos vies, à travers ce temple que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce temps et nous te prions que tu puisses être au milieu de nous. Seigneur, que tu puisses nous bénir à travers tout ce que nous allons entendre. Et nous prions tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et notre rencontre cet après-midi sera vraiment très agréable. Et avant cela, nous aimerions faire des annonces juste pour rafraîchir notre mémoire. Ne chargez pas votre téléphone dans l'auditorium et si vous le rechargez dans votre chambre et qu'il est perdu, alors c'est la faute de qui ? Ça sera la tienne. Ok. Parce que c'est mon problème. À partir de maintenant, personne ne rechargera son téléphone dans ses chambres. Si vous rechargez votre chambre et que c'est perdu, alors ensuite, ça sera votre problème, plus le mien. Avant que je l'ai dit, si votre téléphone était perdu, ça aurait été mon problème. Mais maintenant que je l'ai dit, si vous rechargez votre téléphone dans votre chambre, c'est votre problème. Et maintenant, je suis sérieux. Si tu recherches ton téléphone et qu'il a été volé par la suite, tu ne peux pas dire que ce sera notre faute. Comme nous l'avons dit, il y a deux endroits pour manger. Les garçons mangent dans la tente bleue et blanche et les filles dans la tente blanche. On veut pas avoir de pantalon dans la tente des filles et de jupe dans la tente des garçons. Et nous sommes pas là pour nous amuser avec cela. Soyez tranquille. Nous sommes là pour assister aux réunions afin que vos jeunes gens puissent aider. Les caméras sont là, dans l'auditorium. Et on a pu très bien voir qui se faisait passer le crayon avec le papier. Avec les caméras, nous pouvons aussi voir ceux qui font du bruit et qui sont là pour jouer les troubles fêtes. S'ils se rendent compte de certaines choses, qu'ils puissent nous le rapporter et que nous puissions régler cette situation. que cela puisse s'arrêter maintenant. Nous sommes ici afin que nous puissions apprendre comment vivre notre vie, la vie que le Seigneur nous demande, et que nous puissions retenir, nous puissions l'emmener avec nous à la maison, et ainsi que cela puisse porter du fruit aussi au niveau éternel. Et la réunion de cet après-midi sera une réunion de témoignages. Il y a ceux qui sont là et qui étaient là dans les dernières conférences de jeunes. Quelque chose à dire entre cette conférence en décembre et maintenant, vous en avez maintenant l'occasion. Et nous allons aussi poser des questions et ceux qui répondent juste recevront des prix. Salut, jeunes gens. Je vais poser 4 questions et j'ai 4 prix. Que vous pouviez prendre des notes afin que quand il y a des questions qui sont posées, vous puissiez répondre. Donc la première question est celle-là. La question est, hier soir, quand le présentateur a parlé, alors, hier soir, la personne qui a parlé des conférences de jeunes auxquelles elle a assisté quand elle était plus jeune. Et elle a reçu une invitation pour venir à la conférence de jeunes. Et sur cette invitation, il y avait un verset qui était écrit. Et je suis reconnaissante que la jeune fille s'est levée maintenant, s'est aussi levée hier. Donc elle va donner l'occasion à une autre jeune personne de venir à l'avant. Bonjour. Le verset a dit : tu récolteras ce que tu as semé. ce n'est pas un petit prix, car le seul prix que j'ai, ce sont des bibles. Et on ne trouve pas aujourd'hui de bibles en dessous de 100 rands. Donc c'est un beau cadeau. Deuxième question. Stegen a dit ce matin, il faut honorer tes parents. Car à la fin de tes jours, sois nombreux ici sur Terre. Et il a mentionné trois points que les enfants devaient faire. Donc, quels sont ces trois points qu'il a mentionnés après cela? Il a mentionné le fait que la mère était celle qui nourrissait, qui nous lavait. Et de même que quand tu avais une couche sale, alors c'est ta mère qui te nettoyait également et qui te changeait. Il a bien répondu. Oui, nous avons des parents terrestres, mais aussi des parents spirituels. Et si nous sommes là, nous sommes là pour vous aider afin que de vous donner des conseils et aussi que nous puissions vous aider afin que le Seigneur vous purifie. Question pour les filles. Nous avons vu hier dans le film, il y avait un homme dans son voyage avec une corde qui était attachée à sa cheville. Cet homme faisait des choses mauvaises et il volait avec ses amis. signifie cette corde pour lui et que signifie cette corde qui l'empêche de continuer son voyage? Je suis de Peter Marespo. La corde signifie qu'il n'est pas retourné voir ses amis pour se repentir. Donc, ses amis se souviennent de lui encore comme étant un voleur. Et c'est pourquoi il ne peut pas continuer son voyage. Elle a bien répondu. Nous ne sommes pas là simplement pour répondre à des questions, mais nous sommes là aussi pour nous aider les uns les autres. Donc ma dernière question. Jeune femme, quand elle est dans la forêt, il y avait un homme qui regardait la télé, un homme qui joue de la guitare et une autre jeune fille qui joue de la radio. Attendez, je n'ai pas fini ma question. Je ne choisirai pas les garçons que vous comporterez ainsi avant que vous n'ayez pas montré du respect. Je viens de Donnybrook. Qu'elle n'acceptait pas la télévision parce qu'elle voulait marcher avec Dieu. elle a bien répondu. Elle a dit, je suis sur mon chemin pour le ciel, mais qu'est-ce qu'elle a fait qui l'a aidée à ce moment-là? Des notes. Merci beaucoup. Merci à Barbara DB. Est-ce que je peux rajouter une chose concernant les téléphones portables? Quand nous sommes dans la réunion, nous éteignons nos téléphones afin qu'ils ne troublent pas. Que ça ne soit pas une distraction, et même en mode silencieux, et parce qu'après tu commences à répondre et alors tu troubles les personnes autour de toi. Éteignons nos téléphones. Et les sifflements, cela n'a rien à faire dans l'église. On n'est pas dans un stade ou sur un terrain de sport. Nous sommes ici dans le temple de Dieu, alors il faut honorer cette place pour ce qu'il est, ce lieu pour ce qu'il est. Quand quelqu'un vient répondre, ils viennent de manière calme et vous, vous leur montrez leur respect en étant calme, même si la réponse n'est pas complètement juste, alors vous restez tranquille et calme. Nous ne traitons pas les autres de manière mauvaise quand nous sommes à l'église. Ouais, ne soyez pas. De la congrégation de Kingscliff vont venir et ensuite je vais demander à Arthur, le papa de Mika, de donner son témoignage. Une fois que les frères et sœurs ont terminé de chanter, le papa de Mika peut s'avancer. Bonne journée à chacun. Je dois juste corriger quelque chose. Mika, nous l'entendrons ce soir. Et on m'a juste demandé de partager comment je suis arrivée ici à la mission. Mon nom est Arthur et je vis ici à la mission. Je suis d'Allemagne et j'ai vécu une bonne partie de ma vie en Allemagne jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé à vivre ici. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents allaient à l'église. Le dimanche matin, le dimanche après-midi, le mercredi soir pour une étude biblique et le samedi matin, nous allions à l'école biblique. On pourrait dire l'école du dimanche, c'était le samedi. nous sommes 5 à la maison. Et à cette époque-là, je n'étais pas vraiment intéressée par aller à l'église. J'allais simplement avec ma famille à l'église et ensuite j'allais dans le vestiaire où il y avait les vestes des gens et je vérifiais dans les poches pour voir s'il n'y avait pas des pièces que je pouvais emprunter, entre guillemets. Et en général, les péchés commencent toujours petits. Ça a commencé comme ça. D'abord, je prenais quelques bonbons du placard sans demander la permission. Et ensuite, j'ai volé quelques centimes dans le porte-monnaie de ma grand-mère. Et cela a continué comme cela. Par la suite, je suis allée dans les magasins. Il y avait plein de choses que je voulais acquérir, mais que mes parents ne pouvaient pas me payer. Alors, j'ai essayé de trouver un moyen pour voler ces choses. La plupart du temps, cela se passait bien. Et de temps en temps, j'étais malheureusement attrapée et mes parents devaient venir me chercher à la station de police. Et cela ne m'a pas stoppée et cela m'a juste rendue en quelque sorte plus intelligent, plus vigilant pour obtenir les choses que je voulais obtenir. À l'école, alors que tout le monde était à l'extérieur, je regardais les vélos, voir si on avait quelques-uns et je volais des vélos. Et certains, c'était pour le garder et les conduire et d'autres, c'était pour pouvoir les revendre. Cela a commencé petit avec des bonbons, ensuite des vélos et ensuite ça a été des motos. Quand j'avais 14-15 ans, je conduisais une très grosse moto, la plus grosse moto qu'on pouvait trouver dans l'entourage. J'ai été enfermée en prison plusieurs fois et c'était de cette manière dont je vivais. À l'école, nous étions la seule famille qui était connue comme étant... Notre famille était connue comme une famille qui allait à l'église régulièrement. Mais en fait, c'était un nom qui était craint. Et quand je suis allée à l'école, ensuite il y a eu mon frère et ma petite sœur est venue à l'école. Et alors on lui disait, ah mais tu es une schmunk, ou dis donc. Nous avons causé beaucoup de troubles également à l'école où nous étions et nous avons aussi volé beaucoup de choses. La plupart des péchés commencent petits. Et j'ai fumé, je ne me souviens plus exactement quand, si c'était encore à l'école, j'ai fumé pour la première fois. Et avec un copain, on a trouvé une cigarette quelque part et on a commencé à la fumer. Et ensuite, j'ai laissé ça de côté pour plusieurs mois. Et quelques mois après, nous avons pu voler des cigarettes ici et là et nous avons fumé de nouveau. Quand j'avais 10, 11 ans, je fumais comme un adulte de manière régulière. Et alors que j'avais 10, 11 ans, à l'église où j'allais, il y avait quelques gangsters qui se sont convertis. Particulièrement du chef de gang qui s'est converti et qui nous a donné son témoignage. Et ensuite, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai eu ce désir de devenir comme cet homme. C'est comme si le diable a entendu et a permis que cela se passe. Donc en fait, il a eu le désir de devenir comme ce jeune quand il était encore un gangster. Et à 12 ans, j'étais sous pour la première fois. Et quand je dis sous, c'est je ne pouvais plus marcher, plus rien faire. Je vomissais. Et depuis ce temps-là, ça s'est fait plusieurs fois. Et à 14 ans, j'ai commencé à utiliser de la drogue. Et au début, c'était oui, une petite drogue. Du cannabis et ensuite c'est transformé en ecstasy, cocaïne, ce qu'il y avait comme drogue à cette époque. Et ensuite j'ai pu avoir un travail dans l'entreprise BMW, c'était la ville où j'habitais. Et je me suis rendu compte que cela coûtait cher que de se droguer. Alors j'ai décidé d'acheter de la drogue et ensuite de la revendre pour avoir plus d'argent. C'était quand j'avais 16, 17 ans. Et c'était un business vraiment très lucratif. À 18 ans, et quand j'avais 18 ans, une fois que j'ai eu mon permis, je me suis rendue dans des pays où la drogue était plus facile d'accès et je remplissais mon sac de drogue et je retournais en Allemagne. Je pouvais conduire de belles voitures de sport que les autres pouvaient seulement s'offrir dans leurs rêves. Et les gens venaient à moi conduisait de toutes parts pendant des heures pour faire affaire avec moi et pour obtenir la drogue à un bon prix. Et j'ai fait vraiment de bonnes affaires à cette époque-là. Je me souviens où un temps... J'allais dans les villes, dans différents magasins et je me faisais cette réflexion, mais il n'y a rien de trop cher, je peux m'offrir toutes ces choses. Et c'est comme si le diable m'avait mis tout en haut de l'échelle où je pouvais vivre ma vie mauvaise. J'allais dans des parties partout en Allemagne. Et là où il y avait des grandes rencontres, même dans d'autres pays, alors je me rendais là-bas. Et pendant tout le week-end, j'allais danser et le lundi matin, je devais retourner au travail. Et c'est comme si, tout doucement, la roue a commencé à tourner dans l'autre sens. Et les choses ne se passaient plus tout à fait comme je les avais planifiées et j'ai commencé à avoir des problèmes. Et à cette époque-là, le standard normal dans ma vie, c'était la drogue, l'alcool et les parties jour et nuit. La fête jour et nuit. Parfois, je me réveillais sans savoir où j'étais. J'étais bleu, vert. Je me retrouvais, je ne savais pas ce qui s'était passé la veille. J'étais complètement perdue. Donc souvent, mes parents ont dû venir me chercher à l'hôpital ou alors de la station de police. Oui, c'était la vie que je menais en ce temps-là. Et si les choses ne se passaient pas selon mes plans, alors je me mettais vraiment en colère et je ne pouvais pas contrôler la colère dans ma vie. Je tapais quelqu'un ou je tapais la voiture de quelqu'un juste pour évacuer la colère que j'avais. C'était vraiment une vie intense que je menais en ce temps-là. Et quand le docteur m'a examiné, quand le médecin m'a examiné, il m'a dit « Écoute, il y a deux possibilités. Soit on te met dans un hôpital psychiatrique, soit on te met sous des médicaments forts pour pouvoir te calmer. » Et à cette époque, j'utilisais ces médicaments avec la drogue ensemble et cela n'a fait que créer une situation qui était encore pire que celle précédemment. l'époque, j'avais 20-21 ans et j'étais même pas capable d'écrire mon nom comme il faut ou de faire l'addition 2 plus 2 égale 4. C'était quelque chose que je n'étais plus capable de faire. À cette époque, je pesais 55 kilos et j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon permis de conduire. J'ai vraiment tout perdu. Par la suite, il y avait une... Et à cette époque, il y avait une femme dans l'église de mes parents qui a eu l'occasion d'être venue à Kwasi Zabantou. Elle est revenue à l'église et elle n'a pas pu partager comme quoi ce lieu existait pour permettre aux gens d'être libres de leurs drogues et de toutes sortes d'addictions. Et à ce moment-là, mes parents ont une lueur d'espoir. Je haïssais mon père et je ne vivais plus avec mes parents depuis un certain temps. Et mes parents ne savaient plus comment m'aider, que faire pour moi. En fait, mon frère, lorsqu'il m'a vu, a dit à mes parents, je lui donne encore 2 semaines et dans 2 semaines, il sera mort. Ma mère m'a téléphoné. Mon garçon, écoute. M'a dit, je t'ai acheté un ticket d'avion, tes sœurs sont déjà là-bas en Afrique du Sud, va les voir pour faire une pause, va juste leur rendre visite. Et j'ai pensé, pourquoi pas? Et je ne savais même pas à cette époque-là qu'il y avait un pays qui s'appelait Afrique du Sud, je me suis dit, pourquoi pas? Alors j'ai pris l'avion. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici à la mission. Et c'était exactement il y a 25 ans, en 1997, lorsque je suis arrivée ici. Et quand je suis... Et quand je suis arrivée ici, j'ai sorti ma cigarette et on m'a dit non, tu ne peux pas faire ça ici, tu ne peux pas faire là. Et je me suis dit, mais quel endroit fou dans lequel je me suis retrouvée. Alors j'ai repris un billet d'avion pour... le jour suivant et j'ai pris mes sœurs avec. Je suis retournée à la maison. Et juste pour rendre l'histoire courte, quelques mois après, je me suis retrouvée de nouveau ici à la mission pour visiter mon autre sœur qui était là. Quand le pasteur du Zimbabwe ce matin a parlé du pouvoir qu'il y avait dans ce réveil de 1966, cela m'a rappelé ce que j'avais vécu moi ce temps-là. Et aujourd'hui encore, je me demande Je me demande encore qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée ici, j'ai écouté les réunions et tout d'un coup, je me suis dit non, mais je ne peux pas porter ces boucles d'oreilles. Et c'était la fin et je les ai quittées. La prochaine réunion, j'ai entendu parler de la fumée et de la drogue. Je me suis dit, mais combien je suis stupide de fumer encore. Et alors j'ai pris un grand sac poubelle, j'ai mis toutes mes drogues dedans et j'en ai fait jusqu'au lac et j'ai fait un grand feu de toutes mes cigarettes. J'avais des médicaments forts et je les ai aussi jetés par-dessus le lac, et c'était aussi la fin de ça. Et le Seigneur a commencé son travail dans ma vie. Et je suis allée voir Oncle Erlo et j'ai ouvert mon cœur. Je me souviens encore sortir de son bureau et j'avais l'impression d'être libre comme un oiseau, mais je ne voulais rien montrer à personne, alors j'ai marché calmement jusqu'à ma chambre. Et ensuite, je retournais à la maison en Allemagne. Ce n'était pas facile car il y avait les amis là-bas encore. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour échapper à tout cela? Et alors j'ai demandé si je pouvais revenir ici pour un an sur la mission. Et je suis... Et je suis revenue ici pour mettre ma vie en ordre. Ma conversion ne s'est pas faite du jour au lendemain. Cela a pris beaucoup de temps. Et pendant cette année où j'étais ici, beaucoup de mes amis en Europe sont décédés. Alors que j'étais ici, il y avait un jugement qui était ouvert contre moi et mes parents ont pu dire que j'étais un endroit où je remettais ma vie en ordre. J'avais une pile de dossiers ouverts contre moi. Et de ce que je me souviens, je suis rentrée à la maison pour demander pardon. Je suis retournée voir mes amis pour couper cette corde et à chaque fois que je me souvenais, j'essayais de rendre les choses que j'avais volées aussi dans les magasins où j'avais été. Après cela, je suis revenue encore pendant un an en Afrique du Sud. Et après avoir mis mon ordre, j'étais au dining hall à la réunion. Il y avait, après chaque réunion, j'avais une liste de choses que je devais remettre en ordre. Et ensuite, je me suis retrouvée à une réunion où je pouvais me dire « Non, mais maintenant, j'ai tout mis en ordre. » Et ce sentiment, c'est quand le Saint-Esprit témoigne qu'il n'y a plus rien entre toi et Dieu, il n'y a rien de comparable, il n'y a aucune autre drogue comparable. Avant, j'étais toujours à la recherche d'essayer quelque chose de nouveau, mais je peux vous dire qu'il n'y a rien de comparable à cette sensation de se savoir libéré. De la même manière qu'à cette époque, j'étais toujours à la recherche de ce sentiment d'euphorie quand je prenais des drogues. Maintenant, si je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ma vie, alors je fais tout pour le mettre en ordre de telle manière à ce que je m'endorme en étant en paix. Ensuite, je suis retournée en Allemagne. J'ai commencé une affaire qui a été florissante et je faisais partie de la congrégation là-bas. Et le Seigneur a complètement changé ma vie. Et quelques années plus tard, il m'a rappelé ici à la mission pour y travailler. Je me suis mariée, j'ai une famille, j'ai des enfants et je ne peux pas remercier suffisamment le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Merci. Merci beaucoup au père de Mika. Changer une personne qui vit dans les rues, qui sent mauvais, qui peut changer cette personne et retourner sa vie, il peut avoir une famille maintenant. Et ce qui veut dire que cela peut aussi vous arriver à vous. Donnez votre cœur au Seigneur, vous nettoyez votre vie, alors le Seigneur peut faire cela pour vous aussi. Il y a plusieurs tickets ici, si vous n'avez pas le vôtre, alors vous pourrez venir vers moi pour savoir si le ticket n'est pas là. On va demander à Mazibungo de s'avancer maintenant et de partager son témoignage également. Bonjour, jeunes gens. C'est juste les jeunes gens qui ont salué le révérend Stegan. Et nous aimons le révérend Stegan pour ce qu'il a fait pour nous. Jeunes gens, il y a de l'espoir. Jeunes gens, il y a de l'espoir. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. Je vois Dieu se révéler à moi chaque jour. Jeune gens, ma vie était une vie difficile. J'étais troublée par l'esprit du lesbianisme où je me considérais comme étant homme. Et je suis sûre que le révérend Stegan était heureux lorsqu'il nous a vu le saluer, mais j'espère qu'il ne sera pas triste de nous voir faire du bruit. De mon témoignage, c'est le danger de la désobéissance. Et c'est un esprit, cet esprit de désobéissance, c'est un esprit qui grandit chez une personne. Si vous êtes désobéissant, vous n'aurez pas de succès. J'ai dit à mes parents, et quand j'ai dit à mon père que j'étais troublée par l'esprit, j'étais attirée par les femmes, mon père m'a dit : je ne veux pas de ça dans la maison, et alors j'ai préféré partir de la maison. Et alors mon père m'a emmené voir la sorcière pour m'aider, mais cela ne m'a pas aidée parce que j'étais troublée par des esprits mauvais. Et pendant mes années d'études, je fumais, je buvais beaucoup. Et à l'école aussi, j'étais désobéissante et je n'écoutais pas mes professeurs. Enfants, quand vous êtes à l'école, faites très attention. J'avais ce problème et nous avons ce problème de jeunes gens dont le cerveau est immature. Pensez à ça, vous êtes en première, mais vos actions démontrent que vous avez la capacité de penser d'un enfant de 10 ans. Quand j'ai quitté l'école, la drogue que je prenais n'était plus suffisante pour moi. Alors j'ai commencé à voler. Là où je travaillais à KFC, j'ai continué de voler. Et quand on m'a licencié, j'ai commencé à rechercher de la drogue. J'ai été arrêtée et j'ai souvent été enfermée en prison. Et c'est là où j'ai commencé à fumer le wonga. Jeunes gens, je vous dis, si vous fumez du cannabis maintenant et que vous ne mettez pas votre vie en règle, alors vous allez finir par utiliser des drogues bien plus fortes et encore bien plus dangereuses. À travers mon habitude de drogue, je me suis retrouvée dans la rue à manger à travers ce que je trouvais dans les poubelles. J'ai ensuite entendu parler de Sisamontou et je suis venue ici. Quand je suis venue ici, je n'avais aucun but dans ma vie. C'est possible qu'ici, il y a des jeunes gens qui sont juste venus pour des vacances, mais ils n'ont aucun but. Et si c'est le cas, alors vous êtes en danger, parce que quand vous retournerez chez vous, alors votre vie sera pire parce que vous aurez été à un endroit où Dieu agit et vous aurez pris les choses à la légère. Je suis venue ici. Mes parents amené ici pour peu de temps car ce n'était pas mon souhait, c'était celui de mes parents. Donc je suis retournée dans la rue. Mais une fois que j'étais de nouveau dans la rue, j'ai entendu une voix qui me disait « Retourne à Kwatisabantu ». Et je suis revenue et j'ai commencé à porter tous mes péchés en allant à la racine de ces péchés car chaque péché commence par une racine quelque part. Les jeunes gens, la question est, alors que vous êtes là, avez-vous commencé à nettoyer votre vie, à confesser vos péchés? Seigneur, j'étais sur la voie large et maintenant je les abandonne et je veux marcher sur ce chemin étroit. Et alors que j'ai commencé à remettre bien en ordre, je suis retournée voir les gens pour restituer ce que j'avais fait, tout ce que j'avais volé pour couper avec cette vie de lesbienne que j'avais. Sur ce chemin étroit, je suis retournée voir les gens à qui j'avais fait du mal pour m'excuser. Et je suis ensuite allée voir mes parents pour m'excuser. Hier, nous avons entendu que nous récoltons ce que nous avons semé. Et dites-moi, quel est le fruit que vous récoltez, ce genre d'arbre où personne ne peut grimper? Êtes-vous un buisson épineux? Ou peut-être... L'arbre, les fruits que tu portes sont très acides. Ou peut-être que tu es un arbre glissant. De la même manière que Zachée est monté sur l'arbre pour pouvoir Jésus, nous sommes aussi en train de grimper cet arbre spirituellement parlant afin que le Seigneur puisse nous dire « Viens aujourd'hui, le jour du salut est entré dans ta maison. » Je sais combien il est difficile de retourner en arrière et de remettre sa vie en ordre. Et alors que j'essayais de continuer de marcher sur ce chemin étroit, certains se sont moqués de moi. Aider. Je n'ai pas argumenté avec eux. Et certains ont dit « Ah, mais elle ne va pas rester 3 mois là-bas, on la connaît trop bien. » Après 3 mois, ils ont dit « Ah non, mais on va lui donner 1 an. » Et maintenant, ils me laissent tranquille. Oui, ce chemin a des défis, mais on peut marcher dessus. Si vous pensez à moi, quelqu'un qui vivait dans la rue, j'étais sale, je mangeais ce que je trouvais dans les poubelles. Et maintenant, j'ai de nouveau une vie. Mon père n'est pas un chrétien. Bien qu'il ne soit pas un chrétien, mais à chaque fois que je vais dans les écoles pour parler, alors il vient avec sa voiture pour m'encourager, bien qu'il ne soit pas lui-même un croyant. Et pour finir, Dieu est vivant, Dieu qui peut aider une personne. Si vous allez à lui pour, et que vous êtes obéissant et que vous le laissez vous purifier, alors il vous aidera. Faisons attention de ne pas mourir avant d'avoir mis notre vie en un, car sinon nous serons maudits. Merci. Merci à nos hippos, partagez votre témoignage, jeunes gens. Vous avez entendu le témoignage de Nosipo qui a parlé de l'esprit de désobéissance. Est-ce que vous continuez à faire du bruit? Et nous remercions le Seigneur pour nous avoir envoyé son Fils Jésus afin qu'il puisse nous sauver de toutes ces habitudes mauvaises. L'homosexualité, le lesbianisme est quelque chose de terrible. C'est une maladie. La chute de Sodome et Gomorre. Et quiconque a cette maladie, alors je vous invite à venir à Jésus-Christ afin que vous soyez sauvés. Nous allons prier et notre prochaine réunion sera à 7h. Fermons nos yeux pour prier. Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu cet après-midi. Seigneur Jésus, tu es un Dieu de miracles et c'est pourquoi nous avons entendu comment tu as sauvé ces jeunes gens. Et maintenant, tu nous enseignes que tu as un plan particulier pour chacun des jeunes gens qui se trouvent ici. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos oreilles et nos yeux pour comprendre ce que tu veux nous enseigner ces jours. Seigneur, alors que nous nous quittons, s'il te plaît que tu puisses nous garder.